Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous avançons dans l'Évangile selon Saint Luc, et nous abordons maintenant le chapitre 15. Sur le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église, des chapitres 11 à 15 à la page 38. Il y a dans ce chapitre 15 des passages magnifiques qui touchent à la miséricorde. Beaucoup de passages de l'Église parlent de la miséricorde. C'est un thème que j'aime particulièrement. Vous me croirez si vous voulez. Mais il m'a été reproché à plusieurs reprises de trop parler de la miséricorde. Et chez certains traditionalistes, c'est épouvantable, mais on en arrive à des choses pareilles. Chez certains traditionalistes, parler de la miséricorde, c'est presque du modernisme. Certains traditionnalistes voudraient qu'un prêtre ne parle que de la justice. Eh bien, on voit très bien, surtout dans ce chapitre 15 de Saint-Luc, que notre Seigneur Jésus-Christ parle énormément de la miséricorde. Attention, il ne faut pas séparer la miséricorde de la justice. La justice et la miséricorde sont comme les deux doigts d'une même main. La justice est tempérée par la miséricorde et la miséricorde est renforcée par la justice. N'oublions pas qu'une justice sans miséricorde pourrait devenir de la cruauté presque, et une miséricorde sans justice serait de la faiblesse. Donc il faut les deux. Quand on me dit que je parle trop de la miséricorde, je trouve ça aussi idiot comme reproche que de me dire « la belle fille parle trop de la très sainte Vierge Marie ». Voyez. Donc on peut être ferme dans la foi tout en méditant très souvent sur la miséricorde. La miséricorde nous aide à nous rapprocher tout simplement du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme il y a un lien entre le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie, ben on voit très bien qu'il y a un lien également entre la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ et la miséricorde du cœur immaculé de Marie. Alors commençons par donc chapitre 15 de Saint-Luc, les versets 1 à 4. Or les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter, et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole « Quel est l'homme parmi vous qui a 100 brebis et qui, s'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour s'en aller avec celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve ?» Bon, ce chiffre 100 est un chiffre de totalité, donc on va expliquer ça avec les pères. De volonté antécédente, notre Seigneur Jésus-Christ veut sauver tous les hommes. De volonté conséquente, c'est l'enseignement de Saint Thomas d'Aquin, de volonté conséquente, seuls ceux qui sont unis à notre Seigneur Jésus-Christ par la vertu de charité peuvent être sauvés. N'oublions pas que la question essentielle que va nous poser notre Seigneur Jésus-Christ au moment où nous passons devant lui, après notre mort, en Dieu jugement particulier, par lesquels tous nous passerons, la première question que va nous poser notre Seigneur, la question essentielle, êtes-vous en état de grâce? C'est-à-dire, avez-vous en vous l'habitation de la Sainte Trinité? Et si j'ai l'état de grâce, eh bien j'ai tout. Tout le reste suivra. Donc, on voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut sauver tous les hommes, S'il se rend compte qu'il manque une brebis, ben, il va tout faire pour aller la récupérer. Il va s'en aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Bon, notez que notre Seigneur Jésus-Christ va la trouver, la ramener sur ses épaules, on va voir ça plus tard dans les autres versets, mais que bien que notre Seigneur Jésus-Christ aille chercher la brebis perdue et la ramène sur ses propres épaules, cependant, notre Seigneur demande une coopération de la brebis perdue. Il ne va pas l'obliger en quelque sorte, la contraindre à venir rentrer au bercail. Il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve et lui proposer en quelque sorte de la ramener au bercail. Il va littéralement la titiller pour qu'elle puisse revenir, mais il demande la coopération de la volonté propre. Là, on touche, avec le mystère de la miséricorde, on touche aussi, attention, le mystère de l'union entre la volonté de l'homme et la grâce toute-puissante de Dieu. La grâce toute-puissante de Dieu ne détruit pas la volonté humaine. Donc la grâce toute-puissante de Dieu, si vous voulez, c'est un peu la miséricorde, mais qui respecte, de par sa justice, l'acceptation ou le refus de la volonté humaine. Alors voilà ce que disent les pères sur ces versets. Page 38. À cause de nos tentations impures, nous sommes comme des brebis sans pasteur, cheminant sur le chemin qui mène à la perdition, sans une seule pensée pour Dieu, le paradis ou le salut des âmes. Le Christ, descendu du ciel pour nous chercher, nous faire quitter le chemin de destruction pour nous mettre sur celui conduisant à la vie éternelle. Donc l'homme qui tombe dans le péché mortel est représenté par cette brebis qui quitte le troupeau, qui quitte la bergerie pour s'en aller, s'isoler et suivre sa volonté propre. Il est évident que si je ne veux plus accepter de suivre la volonté du bon Dieu, eh bien, je vais m'isoler dans ma propre volonté, et à ce moment-là, c'est la chute. Donc, la brebis doit coopérer en quelque sorte à la volonté divine en amenant sa volonté propre et en la plaçant dans la volonté du bon Dieu. Donc le Christ descendit du ciel pour nous chercher, ça c'est tout le mystère de l'incarnation qui est ici représenté par cette parole des pères, j'aime beaucoup cette phrase, le Christ descendit du ciel pour nous chercher, nous faire quitter le chemin de la destruction, pour nous mettre sur celui conduisant à la vie éternelle. Et comment le Christ nous ramène-t-il à ce chemin conduisant à la vie éternelle? Par le mystère de l'incarnation. En unissant sa nature divine à notre nature humaine, il nous place sur sa propre humanité pour nous permettre de retrouver le chemin qui mène au paradis, chemin qui avait été fermé par la prévarication d'Adam et Ève. Donc, les pères disent que notre Seigneur donne une comparaison que l'homme peut reconnaître, bien qu'elle se réfère au Créateur des hommes. Car le chiffre 100 étant un nombre parfait, notre Seigneur parle de 100 brebis, le Christ a lui-même 100 brebis pour montrer qu'il possède la nature des saints anges et celle de l'homme. L'homme est détourné de l'unité par l'orgueil. Désirant être son propre maître, il refuse de suivre celui qui est Dieu, à qui ce Dieu unique ordonne tous ceux qui sont réconciliés par la repentance, laquelle est obtenue par l'humilité. Donc, pour rester dans le troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une condition sine qua non. Cette condition sine qua non, c'est évidemment la vertu d'humilité. Et la première fissure dans l'âme de la brebis qui veut quitter le troupeau, c'est la fissure de l'orgueil. Et si le démon de l'orgueil peut s'immiscer à l'intérieur de l'âme, eh bien immédiatement cela va entraîner le fait que cette âme va vouloir se couper à cause de l'orgueil que le démon a mis dans cette âme va vouloir se couper de l'obéissance. Donc l'humilité des brebis qui restent dans le bercail du Christ, cette humilité va entraîner l'obéissance. Au contraire, l'orgueil va entraîner la désobéissance. C'est pourquoi il est tellement important de former nos enfants à la vertu d'obéissance. Et sans obéissance, il n'y a pas d'humilité. L'humilité et l'obéissance sont, si vous voulez, comme les la porte d'entrée, deux portes d'entrée par lesquelles le bon Dieu peut rentrer dans une âme. Pas d'humilité, pas d'obéissance, mais pas d'obéissance, pas d'humilité. Les deux choses sont liées. Alors que fait notre Seigneur une fois, que fait le berger une fois que notre Seigneur Jésus-Christ a retrouvé la brebis perdue? Notre Seigneur se présente ici comme le bon pasteur. Et lorsqu'il l'a trouvée, cette brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il la met sur ses épaules avec joie. Et venant dans sa maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Notre Seigneur Jésus-Christ veut faire participer, veut que les brebis qui sont dans le bon bercail participent à la joie d'une brebis qui était perdue et qui revient. Donc il n'y a pas de plus grande joie pour notre Seigneur Jésus-Christ que de ramener une brebis perdue. Et notre Seigneur Jésus-Christ manifeste encore plus sa gloire en tant que Dieu en ramenant une brebis perdue qu'en maintenant dans le bon bercail une 99 brebis qui sont restées dans ce bercail. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est plus grand encore en manifestant sa miséricorde qu'en manifestant sa justice. Voilà pourquoi le fait de reprocher un prêtre de trop parler de la miséricorde est une stupidité. Sauf, bien sûr, si on détruit la miséricorde. Parce que si je sépare la miséricorde de la justice, eh bien, à ce moment-là, on détruit la miséricorde. C'est plus de la miséricorde, c'est de la faiblesse. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ parle de la miséricorde, pas de la faiblesse. Encore une fois, il faut garder ce lien entre la miséricorde et la justice. Donc, la miséricorde s'exerce pour permettre à la justice de se rétablir. Qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ qui vient de manifester sa miséricorde en allant chercher la brebis perdue? Il la ramène dans le troupeau. Et là, il y a une loi commune pour le troupeau, donc la justice va de nouveau pouvoir s'appliquer avec cette âme après que la miséricorde l'ait ramenée dans le troupeau. Alors, il y a un beau texte ici de Saint Grégoire le Grand qui dit que, je vous en ai déjà parlé un petit peu auparavant, il y a quelques secondes, quand notre Seigneur Jésus-Christ place, parce que le berger divin place sur ses épaules cette brebis perdue, ici c'est une allusion très nette au mystère de l'incarnation. On peut mettre en parallèle à ce texte celui qu'on a déjà vu du bon samaritain. Rappelez-vous, j'ai expliqué ça plusieurs fois, le bon samaritain qui arrive, qui trouve le long du chemin un homme à moitié mort, qui est tombé entre les mains de brigands, qui l'ont tout dérobé, qui l'ont laissé à moitié mort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va d'abord nettoyer ses plaies avec les sacrements, avec le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, avec donc le vin et l'huile. Et ensuite, il va placer ce moribond sur sa propre monture. L'âne, eh bien, cette monture représente l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que cette humanité est unie à cette divinité, à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, cette humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ peut amener le moribond à l'église, la ramener dans l'église, dans l'auberge, pour qu'elle soit soignée par le tenancier de l'auberge, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc voilà ce que dit Saint Grégoire, le Christ place la brebis sur ses épaules en prenant sur lui notre nature humaine pour porter nos péchés. Là on voit le lien entre l'incarnation, notre Seigneur qui prend sur lui notre nature humaine pour porter nos péchés, mystère de la rédemption. Donc il y a l'association des deux mystères. Pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ se fait homme avec en vue le rachat du péché. Donc notre Seigneur Jésus-Christ se fait homme, pourquoi ? Pour mourir. Notre Seigneur Jésus-Christ ne se fait pas homme simplement pour s'unir à nous. Il s'unit à nous pour pouvoir mourir. Pourquoi? C'est évident. Notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu, en tant que Dieu, il ne peut pas mourir puisque Dieu est éternel. Donc il faut qu'il unisse sa nature divine avec notre nature humaine pour pouvoir mourir pour nous sur la croix. Dieu ne peut pas mourir, donc il va mourir pour nous sur la croix en tant qu'homme. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention lorsqu'on dit que Dieu est mort pour nous sur la croix. Théologiquement parlant, c'est faux, parce que Dieu ne peut pas mourir. Donc il faut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, mais notre Seigneur Jésus-Christ, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, ayant une double nature, une nature humaine et une nature divine, il est parfaitement homme et en même temps parfaitement Dieu. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ne peut mourir sur la croix que dans sa nature humaine. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux termes que l'on utilise. Ayant trouvé la brebis perdue, il revient chez lui, car notre pasteur ayant restauré l'homme retourne dans son royaume céleste. Donc il ramène la brebis perdue et la ramène dans la bergerie. Cette bergerie est à la fois le symbole de l'Église catholique militante ici-bas, mais aussi le symbole de l'Église triomphante, c'est-à-dire de l'Église du ciel, du paradis, avec une différence essentielle, c'est que si la bergerie est le symbole de l'Église militante, quelqu'un, un membre de cette Église militante, une brebis, peut hélas quitter cette Église militante et s'enfuir, quitter le contact avec notre Seigneur Jésus-Christ par le péché grave. C'est la phrase qu'on vient d'expliquer. Il perd une brebis qui quitte donc la bergerie céleste. Mais au contraire, si cette bergerie représente l'Église triomphante au ciel, toutes les brebis sont définitivement pour toute l'éternité au ciel et ne peuvent plus quitter la bergerie. Elles n'ont même plus le désir de quitter cette bergerie puisqu'il n'y a pas d'ombre de péché, bien entendu, au ciel. Donc j'aime beaucoup. Vous voyez, toutes ces phrases sont très belles chez le Père. Il revient chez lui, donc au paradis, car notre pasteur, notre Seigneur Jésus-Christ, ayant restauré l'homme, retourne dans son royaume céleste. Donc notre Seigneur Jésus-Christ se fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu, être divinisé d'une certaine façon, comme le dit saint Augustin. Encore une fois, je vous ai très souvent cité cette phrase qui est très belle. Dieu devient homme pour que l'homme puisse devenir Dieu, mais il ne faut pas le comprendre de travers. C'est évident que l'homme est divinisé effectivement par la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante divinise l'homme parce que la grâce sanctifiante, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Cependant, une divinisation de l'homme ne veut pas dire que l'homme devient Dieu. Bien sûr, il faut comprendre les choses et pas les comprendre de travers. Avançons avec le verset 7 de Saint-Luc au chapitre 15. Je vous le dis, il y aura plus de joie, de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de faire pénitence. Ça, c'est une phrase magnifique qui résume toute la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu augmente davantage sa gloire accidentelle. Il ne peut pas augmenter sa gloire substantielle parce qu'elle est infinie. Mais il va augmenter davantage sa gloire accidentelle en convertissant une âme qu'en maintenant dans la vertu de charité 99 justes. Donc Saint Grégoire précise que Dieu et ses anges se réjouissent davantage parce que les pénitents seront plus fervents dans leur amour que ceux qui ne sont jamais tombés. La vie de fervente dévotion qui suit les péchés commis et pardonnés plaît davantage à Dieu que cette innocence qui devient paresseuse dans sa sécurité. Une phrase très belle, mais qu'il ne faut pas comprendre de travers. Dieu a plus d'amour, d'une certaine façon, si vous voulez. Dieu a plus d'amour pour un pécheur pénitent que, d'une certaine façon, que pour quelqu'un qui n'a jamais péché. D'une certaine façon, bien, pas comprendre évidemment cette phrase de travers. Pourquoi? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a plus d'amour pour un pécheur pénitent? Tout simplement parce qu'il est venu pour les malades. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Comme un médecin, si vous voulez, qui va exercer davantage sa médecine avec une personne malade qu'avec un bien portant, et qui n'a pas besoin de la médecine du médecin. Vous voyez? Donc, ce qui était insinué ici par Saint Grégoire le Grand, c'est que quelqu'un qui a offensé de bon Dieu par le péché mortel, va davantage devoir utiliser la miséricorde du bon Dieu que quelqu'un qui n'a jamais péché. Parce que quelqu'un qui n'a jamais péché, n'ayant jamais perdu le bon Dieu, n'a pas besoin de sa miséricorde de la même façon. Donc notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme d'abord pour les pécheurs. Et d'une certaine façon, encore une fois, il ne faut pas comprendre les choses de travers, d'une certaine façon, Dieu a plus d'amour pour un pécheur pénitent que pour quelqu'un qui n'a jamais péché, la Très Sainte Vierge Marie, par exemple, même si elle a reçu des grâces extraordinaires, c'est absolument évident, n'avait pas besoin de la miséricorde du bon Dieu, de la même façon qu'une sainte Marie-Madeleine, qui avait beaucoup offensé notre Seigneur Jésus-Christ, ou un saint Augustin, avant sa conversion. Et un chef de guerre, ça c'est une très belle phrase que je cite souvent en sermon, parce que j'aime beaucoup cette phrase, un chef de guerre aime plus un soldat qui s'est enfui pendant un combat, mais qui est courageusement revenu pour poursuivre l'ennemi, qu'un autre qui ne s'est jamais enfui, mais qui n'a jamais fait aucun acte héroïque. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui est tombé, un soldat qui s'est enfui, un lâche, et qui revient courageusement, fait un acte plus héroïque que quelqu'un qui ne s'est jamais enfui. Pourquoi? Parce qu'il est plus difficile pour quelqu'un qui s'est enfui, qui a lâchement abandonné le combat, de revenir au combat que pour quelqu'un qui ne s'est jamais enfui, qui n'a jamais eu la tentation de fuite au milieu d'un combat. Donc, quelqu'un qui s'est enfui pendant un combat et qui revient est d'un certain côté plus apprécié par le chef de guerre. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est ici comparé non seulement au bon pasteur, mais également à un chef de guerre, parce que nous sommes des soldats. N'oublions pas que nous appartenons ici-bas à l'Église militante. L'Église militante, c'est l'Église des soldats. Miles, ça veut dire le soldat. Autre comparaison utilisée par les pères, un cultivateur de même aime davantage une terre pleine d'épines qui se met à fournir du fruit en abondance qu'une autre terre qui n'a jamais porté d'épines mais qui n'a jamais donné une récolte extraordinaire. Bon. On peut extrapoler aussi pour les enfants. Imaginez que vous ayez beaucoup d'enfants. Une famille nombreuse, et qu'il y a un des tous les enfants sont faciles, suivent bien la loi divine, suivent bien la loi humaine que vous avez établie dans votre famille. Et puis il y a un peu un enfant qui traîne la patte, qui a beaucoup de mal à obéir, qui est plus difficile. J'ai rencontré des familles comme ça. Je me suis une famille très nombreuse qui avait un enfant qui était particulièrement difficile. Eh bien, au lieu de vous plaindre parce que vous avez un enfant difficile, au milieu un troupeau d'enfants très facile, eh bien, il faut, en tant que parent, que vous aimiez davantage l'enfant difficile, parce que l'enfant difficile a plus besoin de votre aide qu'un enfant facile. Un enfant facile n'a pas besoin autant de surveillance qu'un enfant difficile sur le dos duquel vous devez être toute la journée. Vous voyez, c'est quelque chose d'important. De la même façon, je vois quand on prêche sur retraite, bon, moi j'avoue que j'ai plus de joie encore en tant que prédicateur de retraite des exercices de Saint-Ignace quand je vois un païen qui vient faire les exercices et qui se convertit qu'en voyant une personne qui fait les exercices avec grande, grande générosité, grande dévotion, mais qui n'a jamais eu, même eu la tentation d'abandonner notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est mis sur les rails du bon chemin et puis il est resté sur ses rails. Au contraire, quelqu'un qui fait les exercices Saint-Ignace, qui prépare une confession générale et qui me dit, Monsieur l'abbé, moi j'ai fait les 400 coups, je lui dis tout de suite, vous avez fait les 400 coups. Ça veut dire que vous avez plus besoin de la miséricorde du bon Dieu que quelqu'un qui n'a pas fait les 400 coups. Et que donc Dieu va plus exercer sa miséricorde à votre égard précisément parce que vous avez fait les 400 coups et vous donnera plus de grâce. Hein? Rappelez-vous cette phrase dont j'ai déjà parlé dans plusieurs sermons, ô Felix culpa, ô faute bienheureuse qui nous a valu un tel rédempteur. On peut presque adapter cette phrase qu'on trouve dans l'Exultète de la nuit pascale, presque adapter cette phrase au pécheur. Ô péché bienheureux, qui ont permis à notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, de me donner toutes ces grâces de conversion, ben, que je n'aurais pas pu avoir si j'avais pas eu besoin de me convertir. Donc, quelqu'un qui a beaucoup offensé le bon Dieu et qui se convertit va plus facilement aimer le bon Dieu que quelqu'un qui ne s'est jamais converti, qui a pas besoin de se convertir, exactement, parce qu'il n'a jamais quitté notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, on le voit, nous, en tant que prêtres, souvent, les personnes qui sont les plus ferventes sont les convertis précisément. Et j'aimerais parfois voir dans les âmes de personnes qui ont toujours été catholiques, qui ont toujours été élevées dans le milieu de la tradition, autant d'amour du bon Dieu que je vois, c'est des gens convertis qui n'ont connu que depuis très peu de temps l'amour du bon Dieu pour eux. Vous voyez? C'est ça qu'il faut vraiment se réjouir quand se réjouir quand des âmes qui étaient éloignées de Dieu se rapprochent du bon Dieu. Je vous ai déjà cité ce fait malheureux qui m'est arrivé une fois ou deux avec des confrères qui n'avaient pas compris du tout la miséricorde du bon Dieu et qui me reprochaient de faire venir en retraite des non-catholiques ou des catholiques qui ne pratiquaient pas depuis très longtemps. Et qui me reprochait en me disant, mais vous savez, pourquoi vous faites venir des non-catholiques à ces retraites? Il ne sait même pas faire un signe de croix, ce gars-là, et vous l'amenez à la retraite. Ben, précisément, c'est parce qu'il ne sait pas faire son signe de croix qu'il a besoin de la retraite. Ah, mais vous comprenez, il ne connaît aucune prière. Eh bien, il va les apprendre. Il va les apprendre. Et heureusement que nous avons des non-catholiques qui viennent faire la retraite. Je dirais que c'est tout l'apostolat de l'Église. Imaginez une chapelle. Avec des tas de bons catholiques, mais qui ont toujours été catholiques, et qui ne cherchent absolument pas à ouvrir ses portes à des non-catholiques, pour les encourager à venir dans l'Église catholique. Eh bien, quelque chose qui ne va pas du tout. J'ai vu ça, malheureusement, je m'excuse d'insister, mais ça me semble très important à comprendre, pour aider ces erreurs, j'ai vu parfois dans certaines chapelles catholiques, bien sûr je ne citerai aucun nom, rassurez-vous, dans certaines chapelles catholiques, des chapelles qui sont littéralement engoncées, si vous voulez, dans leur vérité, et qui consistent à dire, nous sommes une chapelle de, nous sommes les meilleurs, nous sommes les saints, nous sommes les bons, et il ne faut surtout pas accepter des gens de l'extérieur, parce qu'on risque de se faire contaminer. Mais c'est deux formes d'apostolat complètement différentes. Il y a certains prêtres de la tradition qui sont comme ça. Je ne le reproche pas d'ailleurs, à condition qu'ils aient l'humilité de reconnaître que ce n'est pas l'unique façon de faire un apostolat. Il y a des prêtres dans la tradition qui vont dire, mon rôle en tant que prêtre, le bon Dieu me confie une chapelle avec une centaine de fidèles, je dois conserver ces fidèles pour les empêcher de se faire contaminer par le monde moderne. Donc je ferme toutes les écoutilles, je ferme toutes les portes, toutes les fenêtres, et je protège mes fidèles. Bon. Et puis il y a un autre apostolat, j'avoue que je me sens beaucoup plus à l'aise avec ce deuxième apostolat, qui consiste à dire, nous allons ouvrir les portes pour que des gens de l'extérieur puissent venir et se convertir aussi, évidemment avec prudence. Avec prudence. Il ne s'agit pas d'ouvrir toutes les portes de la maison pour que les gens qui sont à l'intérieur de la maison quittent la maison, c'est absolument évident. Voyez, mais il faut faire attention à ça, ça me semble extrêmement important. J'ai vu des chapelles dans lesquelles des nouveaux venus qui étaient, par exemple, qui venaient d'église de Vatican II, qui avaient entendu parler de la chapelle, de la messe traditionnelle, venaient tout timides se présenter à cette chapelle, donc ils restaient au fond de la chapelle. Et j'ai vu dans certaines chapelles de purs qui se purifiaient parmi des purs de plus en plus purs, comme on dit vulgairement, des gens pratiquement dans certaines chapelles vont regarder ce nouveau venu de travers en disant c'est qui celui-là et pourquoi il vient chez nous, et puis il est mal habillé, il n'a pas la cravate, cette femme n'a pas de mantille sur la tête, et puis elle est en pantalon, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'elle fiche ici, au lieu de se réjouir que des personnes comme cela arrivent dans la chapelle. Et puis, il faut après prier pour ces personnes, laisser la grâce du bon Dieu travailler, et en général, ça se passe tout seul. Oui, je dis toujours, je me suis plusieurs fois attrapé avec des fidèles. Je me rappelle, prenez un cas, ça arrivait plusieurs fois, j'ai eu malheureusement plusieurs fois le cas, une personne qui venait comme ça de l'église de Vatican II, et qui venait un petit peu par... poussé par la grâce, mais bon, qui rentre dans notre chapelle et qui était manifestement pas du tout, qui ne savait pas quelles étaient les coutumes. Donc elle ne fait pas de génuflexion, cette personne ne portait pas un pantalon, elle ne portait pas de mantille, par exemple. Il faut, dans un cas comme ça, surtout rien dire au début. Laisser les choses se faire. Doucement, cette personne, en général, comment ça se passe? Cette personne, cette femme qui vient dans la chapelle pour la première fois, qui vient de l'église de Vatican II, donc littéralement du paganisme, on peut dire ça, et qui est en pantalon, qui n'a pas de voile sur la tête, elle regarde autour d'elle, dit, tiens, ici, toutes les femmes ont un voile sur la tête, et puis les femmes sont en robe. Ça, c'est tout seul. Le dimanche suivant, elle revient, et elle est en robe, parce qu'elle a compris, attention, je reviens dans l'église de la tradition, avant c'était comme ça, et c'est normal que ça continue comme ça dans cette église. Imaginez, j'ai eu des cas comme ça, une femme de la paroisse, pris d'un ce que Monseigneur Lefebvre appelait le zèle amer, Dieu sait, ça fait des dégâts ce zèle amer, qui se précipitait littéralement sur cette personne, avec un voile dans la main, avec un voile dans la main, une mantille dans la main, en disant, madame, ici, les femmes mettent un voile. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce pantalon? Vous n'avez pas le droit d'être en pantalon dans une chapelle, il faut être en robe. Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne qui était venue pour la première fois, elle part, elle reviendra jamais. La grâce est passée, n'en passera jamais. Et qui est responsable du fait que cette personne peut-être ne se convertira jamais? Eh bien, c'est la femme catholique qui a fait du zèle amer, qui a détruit complètement la grâce du bon Dieu dans une âme. Donc attention à ça, je me permets d'insister là-dessus. D'où ces deux phrases que je répète parce qu'elles sont très importantes. Un chef de guerre aime plus un soldat qui s'est enfui pendant un combat, mais qui est courageusement revenu pour poursuivre l'ennemi, qu'un autre qui ne s'est jamais enfui et qui n'a jamais fait aucun acte héroïque. Puis, deuxième exemple, un cultivateur de même aime davantage une terre pleine d'épines qui se met à fournir du fruit en abondance qu'une autre terre qui n'a jamais porté d'épines mais qui n'a jamais donné une récolte extraordinaire. On voit l'exemple des saints là-dessus. Prenez l'exemple d'un saint Jean Bosco, par exemple, l'exemple de saint Vincent de Paul, l'exemple de tous ces grands missionnaires qui ont été habitués, si vous voulez, à être constamment avec des païens et qui ont amené beaucoup de païens à la foi catholique. Pensez à saint François Xavier qui a baptisé de sa propre main plus d'un million de personnes. C'est ahurissant, mais c'est comme ça. Mais je pense que c'est prêtre qui peut-être manque un peu, d'esprit de miséricorde, parce qu'ils parlent constamment de justice, et ils oublient la miséricorde, eh bien, peuvent être ce que j'appellerais un éteignoir d'âme. J'ai connu des prêtres comme ça, c'était épouvantable. Pratiquement tous leurs sermons, ils parlaient de l'enfer. Tous leurs sermons. Bon, et j'ai connu des gens qui disaient, ah ouais, on a un prêtre bien ferme, s'il est ferme, il parle toujours de l'enfer, toujours de l'enfer, toujours de l'enfer. Ou d'autres prêtres, j'en ai connu aussi dans la tradition, qui ne parlaient que des horreurs actuellement de Bergoglio. C'est vrai qu'il y a des horreurs faites par Bergoglio, mais est-ce qu'on nourrit les âmes en parlant constamment de ces horreurs? Malheureusement, elles sont là, ces horreurs. Est-ce que ça sert à quelque chose d'en parler toute la journée? Bien sûr que non. Il faut amener, monter les gens vers le bon Dieu. Si vous faites tout un sermon pour dire Bergoglio encore dit ça, 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 et ça, c'est un véritable scandale. C'est vrai que c'est un scandale. Mais est-ce qu'en faisant tout un sermon contre Bergoglio, est-ce que vous allez monter les âmes de vos auditeurs, de vos paroissiens, vers le bon Dieu? Est-ce que ces personnes qui ont assisté au sermon, qui ont suivi la messe avec vous, est-ce qu'elles vont quitter l'église avec un peu plus d'amour du bon Dieu dans leur âme qu'avant? Vous voyez? Et c'est pareil. Parler constamment de l'enfer, il faut en parler. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec le système éducatif qui consiste, dans certaines familles, j'ai vu ça, à parler d'enfer tout le temps. Et pousser les enfants à n'obéir que par peur de l'enfer. Si tu désobéis, tu vas dans l'enfer. Si tu fais ça, tu vas dans l'enfer. Si tu fais ça, tu vas dans l'enfer. Bien sûr qu'il faut parler de l'enfer aux enfants. Entre Seigneur Jésus-Christ, on a parlé 63 fois dans les évangiles, c'est pas pour rien. Mais il faut aussi parler de la miséricorde. Et ce chapitre 15 de Saint-Luc est bien important pour ça. Autre exemple donné par Victorinus, je sais pas qui est cette personne. Victorinus, donc, après être tombé dans le péché mortel, entra dans un monastère où il se soumit à une sévère pénitence et mérita d'être transfiguré dans une lumière céleste et d'entendre la voix de Dieu qui lui disait « Votre péché est pardonné. » Votre péché est pardonné. Donc, péché mortel, pénitence, sévère pénitence. Sévère pénitence, c'est la justice. Votre péché pardonné, c'est la miséricorde. Et il y a les deux choses, et il faut les deux choses. Alors, continuons. Je vous demande, je sais que peut-être certaines personnes ont été un peu étonnées, parce que je dis là, on me dit même, monsieur l'abbé, c'est un peu un libéral. J'espère que je ne suis pas un libéral, mais il y a... quand on dit quelqu'un libéral, c'est pas forcément un péché. Le péché de libéralisme est épouvantable. Le libéralisme, bien sûr, qui consiste à donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, est un péché épouvantable. Mais être libéral est une chose bonne dans le sens de libéral qui veut dire charitable. La véritable charité, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ était libéral à l'égard du pécheur repentant. Alors, nous avançons dans le texte sacré, là, avec les versets, page 39 donc, versets 8 à 10 de Saint-Luc. Autre exemple, donc l'enseignant Jésus-Christ continue avec ses paraboles de la miséricorde. Quelle est la femme qui, ayant 10 drachmes, si elle en perd une, n'allume la lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y aura de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui fait pénitence. Vous voyez, on retrouve, là encore une fois, presque le même texte du verset 7. Il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de faire pénitence. Et ici, verset 10, il y aura de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui fait pénitence. Vous voyez, on voit très bien ici que notre Seigneur Jésus-Christ va multiplier les exemples de miséricorde. Encore une fois, je m'excuse de me répéter, mais ça me semble très important, notre Seigneur exerce davantage la miséricorde que... appuie beaucoup sur la miséricorde justement pour faire pour nous aider à comprendre la justice du bon Dieu. La justice et la miséricorde sont unies. On peut dire tout ce qu'on veut sur Monseigneur Lefebvre, mais je pense que c'est une des grandes vertus de chez Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre avait cette extraordinaire charité, la vraie charité. Bien sûr, il n'avait pas tout compris. J'aurais préféré qu'il prenne position sur les vacantistes. Il l'a jamais fait. N'empêche qu'il avait cette charité extraordinaire. J'ai vu, de mes yeux vu, Monseigneur Lefebvre, dans des coins très perdus du Mexique, des coins d'une très grande pauvreté, Monseigneur Lefebvre, ce prince de l'Église, s'il en était un, c'était bien lui, ce prince de l'Église, arrivait à parler avec des gens d'une extrême misère, pauvreté, et se mettre au niveau des gens à qui il parlait. Une des joies de Monseigneur Lefebvre, même dans ces milieux très pauvres, je me rappelle dans l'état de Oaxaca, à Tuxtepec, là, ou à Oitland, près de l'état de Oaxaca, pas très loin de la côte est du Mexique, la côte atlantique donc. Monseigneur Lefebvre, une de ses joies, c'est après les messes ou les confirmations de parler avec les gens du coin et de bénir les enfants. J'ai vu Monseigneur Lefebvre dès que une maman venait avec son bébé accroché à son cou, Monseigneur tout de suite bénissait. Et j'ai vu ça en Afrique aussi. J'ai eu l'occasion de plusieurs fois, enfin pendant plusieurs jours, d'être au Gabon. Monseigneur Lefebvre a été comme prêtre alors qu'il était supérieur du séminaire de Libreville, au Gabon. J'ai vu Monseigneur, surtout quand il était dans les paroisses de Njolé, de Lambaréné, etc., dans les paroisses où il était comme missionnaire, eh bien, des gens, j'y suis allé longtemps après le départ de Monseigneur Lefebvre d'Afrique, et en fait il était déjà mort à l'époque, et les gens du coin nous parlaient encore avec effusion du Père Marcel. Le Père Marcel, c'était, et ce qui revenait toujours, c'est son extraordinaire charité. Il a amené les âmes vers Dieu par la charité. Alors voilà, voyons un petit peu ce que nous disent les pères de l'Église sur ce sujet, commençant par un texte de Saint Cyrille. Alors, je ne sais pas si c'est Saint Cyrille d'Alexandrie ou Saint Cyrille de Jérusalem. Bon, Saint Cyrille explique mystiquement que nous sommes les créatures de Dieu qui nous a fait, et les brebis de son troupeau. Par la seconde parabole, on nous enseigne que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme la drachme qui porte l'image du roi. La drachme, c'est une pièce de monnaie. Donc, sur la drachme était imprimée l'image de l'empereur. Bon, et ça représente l'âme qui est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'âme est créée à l'image de Dieu, devient la ressemblance de Dieu par le baptême. Eh bien, de même que la drachme manifeste l'autorité de l'empereur, de la même façon, une âme créée à l'image de Dieu, à la justice de Dieu, manifeste la grandeur et la gloire de Dieu. Donc nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme la drachme qui porte l'image du roi. Je vous rappelle ce que j'ai déjà expliqué très souvent, que l'homme est créé à l'image de Dieu à cause de l'existence d'une âme. L'âme est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté capable de connaître Dieu et de le connaître, parce qu'elle était, elle est immortelle. Donc tout homme est créé à l'image de Dieu parce que tout homme a une âme. L'homme est un composé de corps. Du corps et d'âme, et l'âme est la forme du corps. D'accord ? Mais ici, Saint Thierry explique que nous sommes créés à l'image et aussi à la ressemblance. Il parle des catholiques, là, des chrétiens. La ressemblance de Dieu, c'est quelque chose qui se rajoute à l'image. Un deuxième sceau, en quelque sorte, divin sur l'âme. Premier sceau divin sur l'âme, l'existence d'une âme. L'existence de l'âme sur l'homme. Deuxième sceau qui se rajoute sur cet homme, qui devient chrétien, le baptême qui va donner la grâce sanctifiante. Et tant que je reste en état de grâce, je garde non seulement l'image, parce qu'on a tous une âme et qu'on va garder tout le temps, l'âme ne sera jamais détruite, même en enfer, elle demeurera, parce qu'elle est immortelle. Et à cette image se rajoute une ressemblance de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu par le baptême et par la grâce. C'est la grâce qui nous donne cette extraordinaire ressemblance de Dieu. Donc, tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu, contrairement à ce que prétend Bergoglio. Tous les hommes sont des créatures de Dieu, y compris les musulmans, les bouddhistes, les communistes et tout le monde. Tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais seuls ceux qui sont baptisés sont des enfants de Dieu. Et enfants de Dieu va correspondre à la ressemblance. Sauf que on peut être enfant de Dieu et malheureusement perdre notre ressemblance avec Dieu parce qu'on perd l'état de grâce. Donc il ne faut pas simplement avoir l'image, il faut aussi avoir la ressemblance. La ressemblance, ça ne suffit pas d'avoir le baptême. Il ne faut pas croire que parce que j'ai le baptême, je suis sauvé. Le baptême permet le salut à condition qu'il y ait la ressemblance. Donc si vous voulez, il y a l'image de Dieu, l'âme, le baptême, deuxième étape, qui va donner la charité, la ressemblance avec Dieu au moment où je reçois le baptême, en étant en état de grâce, bien entendu. Mais malheureusement, si je perds si je perds l'état de grâce par le péché mortel, je vais perdre non pas le caractère du baptême qui fait de moi un enfant de Dieu. Donc ce caractère d'enfant de Dieu demeure, même si je vis dans le péché mortel jusqu'au cou, à partir du moment où je suis baptisé. Cependant, je vais perdre la grâce du bon Dieu. Donc il y a l'image au niveau de la nature humaine, puisque tout homme naturellement a une âme. L'âme est quelque chose de naturel pour l'homme, puisque Dieu a voulu que l'âme soit créée à l'image de Dieu. Mais il y a la ressemblance qui se rajoute, donc le baptême d'abord, et la ressemblance par la grâce. Alors, autre commentaire des pères, la femme qui perdit la pièce d'argent quand l'homme qui fut créé à l'image de Dieu, par son péché, quitta la ressemblance qu'il avait avec son créateur. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, par le péché, j'abandonne cette ressemblance que j'avais avec mon créateur. Je peux même aller plus loin. Par mon péché, le péché mortel qui s'introduit dans l'âme d'un baptisé, l'âme va quitter la ressemblance qu'il avait avec son créateur pour prendre une autre ressemblance, à savoir la ressemblance qu'il a à ce moment-là avec le démon. Donc en quelque sorte, le bon Dieu quitte l'âme qui vient de commettre un péché mortel, et par cette même porte que le bon Dieu vient de prendre pour quitter mon âme, eh bien le démon va venir prendre la place et rentrer comme conquérant, comme roi, nouveau roi de l'âme. Ou notre Seigneur Jésus-Christ est roi de mon âme, ou c'est le démon. Nul ne peut servir de maître à la fois. La femme donc allume une chandelle par sa réjouissance, car la sagesse de Dieu apparaît dans l'homme. La lampe allumée, c'est le verset 8, donc elle perd une drachme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume la lampe, elle balaye la maison et cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Bien, cette lampe qui brûle représente le travail de la grâce actuelle qui amène l'homme à balayer sa maison. Balayer sa maison, c'est quoi? C'est la confession. Je balaye ma maison par la confession pour retrouver la beauté qu'elle avait auparavant. Et en balayant ma maison, je mets la poussière dehors. La première poussière que je vais jeter dehors, c'est le démon. Donc je balaye le démon, littéralement. J'expulse le démon. Et du coup, le bon Dieu peut revenir. D'accord ? La femme donc allume une chandelle car la sagesse de Dieu apparaît dans l'homme. La lampe allumée est une lumière dans un vaisseau de terre, un vaisseau d'argile, qui représente la divinité dans la chair. Là, il y a une faute aussi, c'est le vaisseau de terre qui représente, il peut y avoir de Q majuscule là. Donc, là, je répète, la lampe allumée est une lumière dans un vaisseau de terre qui représente la divinité dans la chair. Quand elle fut allumée, elle retourna toute la maison. En effet, dès que sa divinité brilla à travers la chair, toutes nos consciences furent horrifiées. Dans quel sens? Parce que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu, va épouvanter tous les démons, horrifier tous les démons qui vont partir. Donc, c'est une belle, belle image, donc il faut reprendre un petit peu ça, méditer ça. Donc, j'ai une beauté d'âme qui m'a été conférée par Dieu, par le baptême, par la grâce sanctifiante, et si, quand je perds une drachme, ça veut dire que je fais introduire le péché mortel dans mon âme. Et donc, il faut immédiatement que j'allume la lampe, que je balaye la maison, pour rechercher ce que j'ai perdu. J'ai perdu quoi? Cette drachme perdue représente la grâce sanctifiante qui a été perdue. Donc j'allume la lampe, je balaye la maison pour retrouver la grâce sanctifiante. On continue. L'esprit corrompu, s'il n'est pas rejeté dès le début par la crainte, n'est pas purifié de ses fautes habituelles. Encore une faute d'orthographe, je corrige au fur et à mesure que je le vois. Je m'excuse pour ceux qui ont un polycopier avec ses fautes, je ne m'en rends pas toujours compte quand je les tape. Et les polycopiers, alors, ce que je fais, c'est qu'en fin de chaque fichier, lorsque j'ai terminé le chapitre 15, j'ai corrigé toutes les nouvelles fautes d'orthographe que j'ai vues sur mon polycopier. À ce moment-là, je change le polycopier qui est sur le site et je place un nouveau polycopier avec les fautes d'orthographe corrigées. Donc l'esprit corrompu, s'il n'est pas rejeté dès le début par la crainte, n'est pas purifié de ses fautes habituelles. Mais quand la maison est nettoyée, la pièce d'argent est trouvée. Quand la conscience de l'homme est troublée, la ressemblance au Créateur est restaurée en lui. C'est-à-dire, la mauvaise conscience de l'homme, l'homme a mauvaise conscience parce qu'il sait qu'il vient de mettre le bon Dieu dehors par le péché mortel, et à ce moment-là, il va tout faire pour récupérer, balayer sa maison, éclairer sa maison, pour que sa conscience soit purifiée, et à ce moment-là, la ressemblance au Créateur est restaurée en lui par la grâce sanctifiante. Autre parole des pères, une allégorie là, des pères, la femme avait 10 pièces d'argent, 10 drachmes, car il y a 9 cœurs des anges, mais afin que le nombre des élus soit complété, l'homme qui correspond au 10e fut créé. Même après son péché, il ne tomba pas complètement loin de son Créateur, car la sagesse éternelle, brillant à travers la chair par ses miracles, le restaura par la lumière de ce vaisseau terrestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, après avoir créé les 9 cœurs des anges, Dieu va créer les hommes et va aider les hommes à s'angéliser, littéralement, je m'excuse du pléonasme, à devenir littéralement des anges par la grâce sanctifiante. N'oublions pas que lorsque un homme meurt en état de grâce, il va pouvoir, une fois qu'il est au paradis, prendre un des sièges laissés libres par la chute des mauvais anges. Donc les hommes qui meurent en état de grâce vont s'assimiler aux anges, même s'ils ne sont pas des anges strictement parlant. Il y a une différence entre une âme dans la gloire, une âme humaine dans la gloire du ciel, et un ange. Bon. Mais, cependant, l'homme est assimilé aux anges dans la gloire du Père, de la gloire du paradis, on peut dire d'une certaine façon. Donc, ces 10 pièces sont les vertus. Autre explication des pères, il y a beaucoup d'explications magnifiques des pères. Ces 10 pièces sont les vertus qui doivent toutes être présentes, car comme les commandements, elles se doivent d'être complètes. Et il faut qu'il y ait 10 pièces. S'il y en a une qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, Dieu nous a donné un certain nombre de dons, il faut utiliser ces dons. Malheur à celui qui refuse d'utiliser certains des dons que le bon Dieu lui a donnés. Si vous avez un certain nombre de qualités surnaturelles ou naturelles que le bon Dieu vous a données, il faut utiliser ses vertus. Donc la lampe, ici, d'après les pères, représente, d'après certains pères, représente le Verbe divin ou le flambeau de la repentance. Hein? C'est-à-dire, l'image, c'est que le feu de la lampe va éclairer, donc éclairer et une fois qu'on éclaire une pièce, les ténèbres disparaissent par la force des choses. On ne peut pas avoir à la fois dans une pièce les ténèbres et ou l'obscurité d'une part et la lumière. C'est l'un ou l'autre. Ou il y a les ténèbres, ou il y a l'obscurité. Bon, si j'éteins la lumière, les ténèbres vont arriver immédiatement. Mais si je rallume la lumière, eh bien les ténèbres vont disparaître. Donc la lampe qui brûle représente le flambeau de la repentance qui va rouvrir la porte de mon âme pour que le Verbe divin, c'est-à-dire la grâce sanctifiante, puisse revenir. Donc les voisins qui vont devoir se réjouir avec la femme qui a perdu la barbe mais qui l'a retrouvée sont la raison, le désir, la colère et toutes les autres affections. Dans cette parabole, la race humaine est comparée, nous disent les pères, à une pièce d'argent perdue, qui montre que nous avons été créés selon l'image et la ressemblance royale du Très-Haut. C'est une image qui a déjà été expliquée auparavant. Donc, de même que la pièce d'argent représente l'autorité de l'empereur, l'âme doit être marquée du sceau de la grâce sanctifiante pour rappeler qu'elle appartient à son Dieu créateur. Donc nous serons réconciliés avec le Très-Haut par la repentance. Donc il nous demande d'abord d'allumer une chandelle pour que le Verbe divin mette en lumière toutes les choses cachées dans notre propre maison, c'est-à-dire dans notre âme. Donc la lumière permet de voir les choses qui doivent être changées. Si je suis dans l'obscurité la plus complète, ben, je vois pas la pagaille qui est dans la pièce. J'allume la lumière, première chose que je vois, ah, tout est en désordre, il y a des poussières partout, il y a de la poussière partout, il y a des toiles d'araignée partout, faut nettoyer tout ça. Et pour voir les toiles d'araignée et les enlever, pour balayer la poussière et passer le balai partout, ben, il faut de la lumière, sinon je peux rien faire. Donc cette lumière représente la grâce actuelle qui permet d'arriver à la grâce sanctifiante. C'est pour ça que la femme allume d'abord la lumière, une lampe allumée, et puis après elle cherche. Elle balaye tout, recherche sa pièce qui est perdue. Donc la lumière qui est allumée pour rechercher la pièce représente la grâce actuelle que Dieu peut donner même à quelqu'un qui vit dans l'état de péché mortel pour l'amener à se confesser. La confession représente la drachme retrouvée et à ce moment-là, elle invite tout le monde pour faire une grande fête parce que la drachme était perdue, la drachme est retrouvée. Donc la perte de la pièce d'argent, de l'image royale qui n'est pas totalement effacée mais cachée sous la terre, signifie la corruption de la chair. Si cette corruption est effacée, nettoyée par une nouvelle vie, l'image royale peut renaître. Et c'est le cas de toutes ces grandes conversions. J'ai parlé de saint Augustin, de sainte Marie-Madeleine, ces grandes conversions extraordinaires. Et certains des plus grands saints ont été des très grands pécheurs. Prenez l'exemple, par exemple, encore une fois, de saint Augustin, sainte Marie-Madeleine, qui sont certainement parmi les plus grands saints de l'Église catholique et qui ont été des grands pécheurs devant l'Éternel dans leur passé, dans leur première vie. Vous voyez comment les pères de l'Église insistent beaucoup sur ces paraboles de la miséricorde. J'ai trouvé beaucoup de textes, il y a encore beaucoup plus. Rien n'empêche, encore une fois, ceux qui veulent vraiment étudier à fond les choses et qui trouvent que je n'explique pas assez, vous pouvez reprendre, je conseille beaucoup pour ceux qui ont un peu de temps, reprenez le texte même, par exemple, de Saint Thomas d'Aquin, la chaîne d'or que j'ai utilisée comme base de secours, on vous l'a trouvée, elle a été éditée aux éditions Saint-Rémy, je crois. Donc c'est avoir 12 volumes, à peu près, une dizaine de volumes au moins. Bon, c'est un peu sec, mais c'est magnifique. Bon, malheureusement, à ma connaissance en tout cas, Cornelius a lapidé, le grand commentaire de Cornelius à la Lapide que j'ai aussi utilisé n'existe pas en français, pas à ma connaissance, et c'est bien dommage. J'espère qu'un jour ces deux gros volumes, les commentaires de Cornelius à la Lapide sur les évangiles pourraient être traduits en français. Ils existent en anglais, et j'ai utilisé la version anglaise d'ailleurs pour préparer ce cours. Grande convertie, Carol Robinson m'avait offert des vieux livres qu'elle avait en anglais à l'époque, c'était autour des années, je sais plus, 85 par là. Elle avait une édition très ancienne de Cornelius à Lapide en anglais, qu'elle m'avait, des évangiles en anglais, m'avait donné, et j'ai utilisé pour justement travailler ce cours. On peut trouver chez les bouquinistes difficilement, mais ça se trouve, Cornelius a lapidé en latin. Mais j'avoue que je suis pas bon du tout en latin, parce que là, j'ai pas pu faire de latin. Je suis arrivé rentré au séminaire en 1974, j'avais jamais fait de latin avant. Et à l'époque, les cours de latin n'étaient pas du tout organisés au séminaire. J'en ai très peu fait, j'en ai beaucoup souffert, j'en souffre toujours beaucoup d'ailleurs. Et donc, je n'étais pas capable, j'en suis pas fier d'ailleurs. c'est une honte pour moi, je n'étais pas capable de lire directement le latin de Cornelius Lapide, qui est un latin difficile. Le latin de saint Thomas d'Aquin est relativement simple, le latin de Cornelius Lapide est vraiment, vraiment difficile. Plus les pères de l'Église qui sont cités en latin, les pères de l'Église sont difficiles. Il y a des différents degrés de difficulté, mais le texte de saint Ambroise en latin, ce n'est pas évident à comprendre, moins pour quelqu'un qui a une petite intelligence comme moi. On continue. J'ai encore quelques minutes. Verset 11 du chapitre 15 de Saint-Luc. Donc on est toujours page 39. Il dit encore, un homme avait deux fils. Bon là, c'est l'introduction d'une autre partie magnifique de la somme, de l'évangile. Donc on va aborder ici une autre parabole de la miséricorde, qui est certainement une des plus connues, la parabole de l'enfant prodigue, qui est utilisée systématiquement, une parabole que je connais bien, j'aime beaucoup la prêcher, parce que c'est une tradition, les exercices de Saint-Ignace en 5 jours, lorsqu'on a fini les confessions générales, et qu'il y a le retour de l'enfant prodigue à la communion, c'est qu'au début des exercices de Saint-Ignace, avant les confessions générales, on ne communie pas, les fidèles qui suivent les exercices ne communient pas, Et avec la confession générale, après la confession générale, il y a un retour à la communion avec une messe chantée qu'on appelle la messe de l'enfant prodigue, le repas avec un grand banquet après, qu'on appelle le repas de l'enfant prodigue. C'est une tradition pour cette messe de l'enfant prodigue avec le retour à la communion, la deuxième partie de la retraite et toute la fin de la retraite. Le prêtre qui prêche ces exercices, le prédicateur, explique toujours cette parabole de l'enfant prodigue. Donc c'est une parabole pour chacun d'entre nous. Donc un homme avait deux fils. Je vous donne tout de suite la suite pour ceux qui connaissent mal cette parabole. Et le plus jeune des deux dit à son père, mon père, donnez-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. On va expliquer. Donc le plus jeune va abandonner le logis maternel pour aller perdre son âme dans le monde moderne, et puis finalement, touché par la miséricorde du bon Dieu, va revenir. On va expliquer tout ça. Dans la citation de saint Ambroise, dans le commentaire du verset 11, il dit encore, un homme avait deux fils, on trouve en saint Luc trois paraboles successivement. La brebis perdue, la drachme perdue et retrouvée, le fils prodigue qui était mort et qui revient à la vie. Elles indiquent un triple remède pour soigner nos plaies. Vous voyez ? Donc, c'est toujours la même idée. La brebis qui est perdue et qui est retrouvée, la drachme perdue qui est retrouvée, le fils prodigue qui est perdu et qui est retrouvé et qui revient à la vie. Il était mort, c'est-à-dire mort spirituellement à cause du péché mortel, et il revient à la vie surnaturelle, c'est-à-dire à la vie de la grâce. Bon. Alors, le Christ berger vous porte dans son propre corps. C'est la piété. L'Église représentée par la femme vous cherche, c'est l'intercession. Et Dieu le Père vous reçoit, c'est la réconciliation. Donc le Christ berger vous porte dans son corps par la piété, ça c'est la première parabole, celle de la brebis perdue. L'Église représentée par la femme qui cherche la drachme perdue, c'est l'intercession, donc c'est la parabole de la drachme perdue. Et Dieu le Père qui vous reçoit par la réconciliation, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Donc le Père est Dieu qui créa tous les hommes, ou le Christ qui nous a tous rachetés et régénérés par son sang et quotidiennement par le baptême. Vous voyez, donc ça manifeste un triple moyen de revenir vers le bon Dieu, par la piété, par l'intercession, par la réconciliation. Il y a un lien évidemment entre ces choses. Donc le bon Dieu nous porte sur lui, ça c'est la vertu de piété. Le bon Dieu nous utilise l'Église pour pleurer nos péchés. Une autre image qui peut s'apparenter à la drachme perdue, c'est l'image aussi très belle de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Et donc la foule qui accompagne cette veuve éplorée, qui a perdu son fils unique, qui était le bâton de sa vieillesse, qui est mort, qui est porté par les porteurs du cercueil vers le cimetière, et notre Seigneur Jésus-Christ est mu de compassion. Et il va ressusciter l'enfant mort, le fils unique de cette femme, et le rendre à sa mère. C'est évidemment un symbole extraordinaire du sacrement de pénitence. Par le sacrement de pénitence, on revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc je conseille beaucoup, encore une fois, à la fin de chaque cours, reprenez les textes du Polycopié. Il est bon, je vous conseille, pour ceux qui ont un peu de temps, lisez le texte du Polycopié avant le cours et après le cours. Voyez, comme ça vous commencez déjà à vous préparer avec le cours, par exemple vous savez où j'en suis avec le cours précédent, vous dites bon, la belle affaire va expliquer à peu près une ou deux pages là, ou peut-être trois pages, donc vous lisez ces trois pages qui suivent le cours précédent, et puis vous écoutez le cours, et après le cours vous relisez les pages que je viens d'expliquer, ça vous permet de mieux profiter de toutes les grâces que nous donnent les pères de l'Église, que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne par les explications données par les pères de l'Église qui ont encore une fois l'interprétation officielle qu'est l'Écriture Sainte. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Nous reprendrons ce cours à page 40 la prochaine fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.